Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, de 10h à 11h, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin avec Valérie Lavalard à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron et Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure, à 10h50, parlera de la République des bons sentiments avec le sociologue Michel Maffezoli. Suite et milieu, ce mercredi, d'une semaine sur Spinoza dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après le traité théologico-politique et le traité de la réforme de l'entendement ou de l'amendement de l'intellect, que les intimes et les agrégatifs appellent successivement TTP et TRE, avant d'évoquer demain le traité politique, puis le court traité, c'est la courte correspondance du grand Spinoza que nous allons évoquer aujourd'hui en compagnie de Maxime Revert, à qui l'on doit, outre une traduction des lettres de Lewis Carroll à Alice, ce qui n'a rien à voir, la présentation et la traduction de cette correspondance en Garnier Flammarion.
Ami que j'aime, un beau matin, le jour pointant à peine dans le ciel, comme je m'éveillais d'un très profond sommeil, les images qui m'étaient venues dans le sommeil s'animaient sous mes yeux avec autant de vivacité que si elles avaient été de vraies choses. Et en particulier, un certain Brésilien, noir et galeux, que je n'avais jamais vu auparavant. Cette image disparaissait en grande partie quand, pour me distraire par autre chose, je fixais les yeux sur un livre ou sur un autre objet. Mais aussitôt que je détournais à nouveau les yeux de cet objet, que je les gardais fixés, sans porter d'attention à rien, la même image du même Éthiopien m'apparaissait avec la même vivacité, encore et encore, jusqu'à ce que peu à peu elle eût disparu de ma tête. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime.
Bonjour Maxime Revert.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, bienvenue sur les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est un bonheur de parler de la correspondance de Spinoza avec vous. Correspondance dont vous assurez la présentation, la traduction dans une édition récente, là, parue en Garnier Flammarion. Un volume impeccable, très utile je dois dire, et un régal de lecture, car la correspondance de Spinoza est bien souvent un régal de lecture. On va partir de la lettre 17, une lettre à son ami Peter Balling, lettre dans laquelle Spinoza entreprend de le consoler. Quelle drôle de façon d'ailleurs de consoler son ami qui a subi la pire des choses, c'est-à-dire la perte d'un enfant, en lui racontant ses propres rêves.
Oui, à cette époque, on est en pleine épidémie de peste et Peter Balling vient juste de perdre son fils. Et il raconte à Spinoza, dans une lettre que nous n'avons pas, comment il a prévu, ou en tout cas pressenti, la mort de son fils peu avant qu'elle intervienne. Et il demande à Spinoza son avis sur la question. Et effectivement, pour le consoler de cette perte et à la fois répondre à la question des présages, Spinoza, à son tour, lui raconte un rêve où, précisément, lui-même a vu des choses qui n'existaient pas. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds.
Mais alors Maxime, ces choses qui n'existent pas, il les voit quand même, et il les voit comme si elles existaient, ce qui donne à réfléchir et à penser, notamment sur ce que Spinoza peut dire du premier genre de connaissance, d'une connaissance qui prendrait des vessies pour des lanternes et dont Spinoza fait déjà un commencement de connaissance. Hein.
Tout à fait. En fait, l'enjeu de cette discussion, c'est le statut de l'imagination. Or, pour Spinoza, l'imagination, c'est d'abord l'aspect le plus immédiat de notre rapport à la réalité. Donc, imaginer, ça n'est pas toujours rêver, comme c'est le cas ici, mais c'est d'abord percevoir. Une chose que l'on perçoit, on l'imagine, et ce n'est qu'à certaines conditions que l'on peut s'assurer que cette perception est vraie. Et l'intérêt du récit du rêve est précisément de montrer dans quel cas cette perception peut s'émanciper des choses extérieures pour se développer par elle-même. Donc le rêve est d'autant plus vif que la concentration de l'esprit est d'autant plus relâchée. C'est ce que commence par expliquer Spinoza. Et au fond, pourquoi est-ce que ceci est consolant à l'égard d'Hugo Boxell, qui donc est encore dans la douleur...
Boxell, c'est les fantômes. On va les entendre tout à l'heure, tiens, d'ailleurs. Hein, oui.
Pourquoi est-ce que ça console Balling de savoir que l'imagination peut s'émanciper de tout? C'est que Spinoza essaie de lui expliquer qu'il y a deux manières pour l'imagination de s'échapper du réel. L'une, qui est à peu près délirante, est celle dont il témoigne lui-même dans son rêve, c'est-à-dire qu'elle ne se fonde sur rien qui ait rapport à l'esprit entendu comme, disons, entité rationnelle. Et qu'en revanche, lorsqu'il y a un rapport avec du rationnel, on est dans le présage, dans la mesure où la rationalité peut prévoir, à partir des causes, quels seront les effets.
Donc on est dans le présage, mais on n'est pas dans la prémonition. On n'est pas dans la pensée magique, on est dans la magie de la pensée. C'est-à-dire que c'est plutôt une façon de dériver, par l'ordre des raisons, ce qui semble s'annoncer ici, et non pas d'interpréter de façon totalement prémonitoire. Le sens d'un rêve, ce n'est pas Daniel lisant le rêve de Nabucodonosor.
Non, ce qui est génial ici, dans la pensée de Spinoza, c'est qu'il incite à penser qu'on peut penser sans s'en apercevoir. On peut être rationnel sans le savoir. Et c'est ce qui arrive à Peter Balling. C'est-à-dire que quand il pressent, ou plus exactement qu'il entend déjà les gémissements de son fils alors qu'il n'est pas encore en train de les pousser, c'est qu'il a une préscience de ce qui va se passer. Et cette préscience, elle est rationnelle, même s'il n'a pas mis en jeu les outils de la raison.
Mais cette préscience rationnelle repose sur quoi exactement? Est-ce que c'est un excès d'attention qu'un esprit peu averti aurait tendance à tenir pour un sixième sens? Est-ce l'effet d'une attention excessive à des signes qui en eux-mêmes sont imperceptibles et qui viendraient se précipiter en une intuition?
D'une certaine manière, oui. Et en même temps, cela ne participe pas d'une attention volontaire de l'esprit, mais plutôt de raison objective du corps. C'est-à-dire que dans la suite, Spinoza avait expliqué à son ami que son corps et le corps de son fils sont dans un tel rapport d'affinité filiale qu'il est possible au corps de Peter Balling de comprendre ce qu'il arrive au corps de son fils. Donc même si l'esprit n'est pas concentré, et au contraire, pour ressentir un présage, il faut qu'il ne le soit pas, le corps de Peter Balling peut lui indiquer une voie qui est celle finalement de l'avenir. Donc, dans cette lettre, il faut imaginer plusieurs degrés de rapport à l'avenir. Quand il commence sa lettre, Spinoza fait part de quelque chose qu'on peut classer comme une appréhension. En fait, il écrit à Peter Balling « Bon, je sais que tu es suffisamment fort pour faire face à l'événement qui te frappe, mais moi, dit-il, mon inquiétude augmente chaque jour. » Pourquoi est-ce que le philosophe est plus inquiet que son ami? Eh bien, la raison, c'est que, en cas d'épidémie, quand on est proche des malades, on risque d'être soi-même atteint de la maladie. Donc l'appréhension de Spinoza, elle concerne directement son ami et il lui dit « Écris-moi beaucoup, parce que maintenant, moi, je suis inquiet pour toi. » Là, on est dans l'affect, mais comme vous voyez, on est dans un affect qui n'est pas sans fondement rationnel. Ça, c'est de l'appréhension.
Très honoré, monsieur. Fort de ce que tu dis dans ta lettre du 21 du mois dernier, à savoir que les amis peuvent n'être pas d'accord sur des choses indifférentes sans pour autant affaiblir l'amitié, je vais te dire clairement mon avis sur les raisons et les histoires d'où tu conclus qu'il y a toutes sortes de fantômes, sauf peut-être de sexe féminin. Examinons la question en elle-même. Avant tout, mon raisonnement concernera brièvement ta conclusion. Voyons si c'est moi qui, en niant l'existence des spectres ou des esprits, manque de respect aux auteurs qui en ont traité, ou si c'est toi qui, en soutenant qu'ils existent, ne fais pas de ces auteurs plus de cas qu'ils ne méritent. D'une part, tu ne mets pas en doute le fait qu'il y ait des esprits de genre masculin. Mais d'autre part, tu doutes qu'il y en ait de genre féminin. Tout cela, me semble-t-il, est plus proche du caprice que du doute. Car si c'était là ton opinion, elle semblerait convenir avec l'imagination du vulgaire qui soutient que Dieu est un homme et non une femme. Je m'émerveille que ceux qui ont vu des spectres nus n'aient pas jeté un œil sur leur partie génitale. Était-ce par peur ou parce qu'ils ignoraient la différence? Tu me diras que je plaisante au lieu d'argumenter. Mais je vois qu'en ceci, tes raisons te semblent si solides et si bien fondées que personne, à ton avis, du moins, ne peut les contredire. Sauf si quelqu'un pensait, à tort, que le monde a été fait par hasard. Eh bien, cela m'incite, avant d'examiner les raisons que tu donnes plus haut, à exposer brièvement mon opinion sur cette question. Est-ce que le monde a été fait par hasard ? Je réponds qu'il est certain que le hasard et la nécessité sont le contraire l'un de l'autre. Il est également évident que quelqu'un qui affirme que le monde est l'effet nécessaire de la divine nature n'admet en aucun cas que le monde a été fait par hasard. En revanche, celui qui affirme que Dieu aurait pu s'abstenir de la création du monde accorde, même en d'autres termes, que celui-ci a été fait par hasard puisqu'il l'attribue à une volonté qui aurait pu ne pas être. Mais comme cette opinion est totalement absurde, les gens concèdent communément, à l'unisson, que la volonté de Dieu est éternelle et qu'elle n'a jamais été indifférente. Pour cette raison, ils doivent aussi nécessairement admettre, note bien ceci, que le monde est le nécessaire effet de la nature divine.
Il y a des choses géniales dans les lettres de Spinoza, Maxime Revers. La première chose étonnante, c'est qu'on peut s'en servir comme on se sert des scoli dans l'éthique, c'est-à-dire le moment où non, l'attention de Spinoza ne se relâche pas, mais la façon qu'il a de dire les choses est humanisée, au fond, par le fait d'abord qu'il parle à la première personne, et puis qu'il s'adresse, semble-t-il, à un lecteur moins attentif, moins sourcilleux, au fond. Et les lettres, à cet égard, ressemblent bien à des scoli, aux scoli qu'on peut trouver dans l'éthique. Et il y a ici, par exemple, dans cette lettre à Hugo Boxell, la lettre 54, il part d'une question... vraiment fantasque, vraiment baroque. La question de savoir s'il est d'une question vraiment fantasque, vraiment baroque, c'est-à-dire la question de savoir si les spectres et les fantômes existent et quel est le sexe des fantômes. Et il en vient à des considérations sur le hasard et la nécessité qui, pour le coup, trouveraient pleinement leur place dans son maître livre, Maxime Revers.
Alors oui, c'est vrai que le grand plaisir de la lecture des lettres, c'est d'abord ce philosophe familier, ce philosophe qui réfléchit entre amis. Et on a là un bon exemple, puisque ce sont des gens, Spinoza et Hugo Boxell, qui ne se connaissent pas très très bien, mais qui se sont vus et qui ont échangé sur des questions philosophiques. Et Hugo Boxell écrit avec une grande naïveté, mais aussi une grande bienveillance à l'égard de Spinoza, en lui disant « Moi j'y crois, et vous ?» Et Spinoza lui répond avec la même bienveillance « Moi j'y crois pas, et vous me faites rire. Et on va rire ensemble. » Et effectivement, c'est... Il faut imaginer que contre l'image d'une philosophie très exigeante où le cartésianisme ferait la promotion d'une raison totalement désincarnée, là on a un philosophe qui vraiment a envie de plaisanter et place la réflexion dans l'échange personnel. Alors, évidemment, il rencontre sur son chemin...
On a presque envie de dire que l'équation est commutative ici, hein, qu'il place l'échange dans la réflexion.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et sur son chemin, il rencontre évidemment beaucoup de vrais problèmes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de blaguer. Même si on regarde le texte d'un peu près, on a entendu tout à l'heure Spinoza écrire, faire allusion à l'imagination du vulgaire qui soutient que Dieu est un homme et non une femme. Il y a là une blague, et puis il y a quelque chose de très sérieux et de très dangereux ici, parce que les gens qui soutiennent que Dieu est un homme, on les appelle les chrétiens. Et généralement, dans les textes publiés, dans les ouvrages imprimés, comme on dit, on ne plaisante pas facilement avec ce genre de choses.
Et au-delà des chrétiens, d'ailleurs, ce sont tous ceux qui se font de Dieu l'idée d'un être à visage humain qu'ils visent, c'est-à-dire bien au-delà. Il serait aussi absurde, du point de vue de Spinoza, de considérer que Dieu est une femme.
Tout à fait, bien sûr. Donc, ce genre de plaisanterie n'est possible que dans le cadre de ce qu'on appelle la République des lettres, qui sont des gens qui n'ont pas seulement confiance l'un en l'autre, mais qui ont aussi fondamentalement une grande confiance en la raison. Et c'est ce qui leur permet à la fois de plaisanter, à la fois de n'être pas d'accord, parfois de n'être violemment pas d'accord, parfois de s'insulter. Ça arrive aussi dans les lettres, on a des lettres très violentes, mais... Tant que l'échange est maintenu, on sent que ces gens considèrent que la philosophie est un espace précisément de... J'ai presque envie de dire de non-droit, parce que précisément, on n'y légifère pas, sinon en respectant les règles de la rationalité.
Alors, il y a effectivement plusieurs tonalités dans ces lettres. Il y a des lettres où on comprend, Spinoza parle à des amis, où l'on comprend qu'il prend plaisir à répondre à ses amis, à leur répondre aux objections qu'ils lui adressent en toute bonne foi, et qu'à cet égard, on peut vraiment ne pas être d'accord sans être adversaire ou ennemi pour cela. Ce qui est d'autant plus facile du point de vue de Spinoza qu'en général, il est beaucoup plus fort que ses interlocuteurs et que par conséquent, il répond clairement aux objections qu'ils peuvent lui faire. Et puis, il y a aussi des lettres où Spinoza est carrément impoli, où il répond, écoutez, là, j'ai cru, dit-il à Blainberg, qu'on pourrait s'entendre et qu'on pourrait discuter, et puis en fait, je m'aperçois que pas du tout, on n'a rien à se dire. Il y a des lettres où il congédie littéralement ses interlocuteurs, outre l'humanité du personnage, qui est quand même toujours l'occasion d'un émerveillement, d'une découverte, comment un tel philosophe pouvait-il être également un humain, ou plus exactement... comment tant d'objectivité, tant de clarté a pu germer du cerveau empirique d'un être ici, présent ici et maintenant, en son temps, et où l'on retrouve chez Spinoza des éléments qui relèvent tout simplement des passions tristes dont il fait l'analyse dans l'éthique.
Oui, alors je ne suis pas sûr que la colère dont Spinoza fait preuve de temps en temps soit à proprement parler du registre des passions tristes qui sont répertoriées dans l'éthique. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'il se fâche, c'est qu'il a le sentiment que face à lui, il a quelqu'un d'autre que celui en qui il espérait.
Quelqu'un de mauvaise foi, oui.
Quelqu'un qui soit est de mauvaise foi, soit ne reconnaît pas un certain nombre de, disons, de principes qui sont les préalables à toute discussion possible. Tant que quelque chose d'un dogme s'impose, la discussion n'est tout simplement destinée à produire aucun fruit. Et puis, il y a quelque chose de très important dans les lettres qui est très spécifique à ce texte, qui est court, qui est multiple... c'est que Spinoza ne cherche pas à imposer une vérité qu'il aurait découverte. Au contraire, il essaye systématiquement de chercher, disons, dans quel horizon se situent ses interlocuteurs et de les prendre par la main et de faire un bout de chemin avec eux. Concrètement, ça signifie qu'il reprend leur vocabulaire, qu'il s'inscrit généralement dans les questions qu'eux-mêmes se posent et qu'il essaye de voir jusqu'où on peut aller de là où ils sont. Donc on a vraiment le sentiment d'un chemin plus que d'une réflexion comme ça qui serait absolue et qui chercherait une vérité valable pour tous.
Oui, mais dans le même temps, est-ce que vous n'idéalisez pas un peu notre ami Spinoza ? Dans une lettre à Albert Burg, par exemple, que vous connaissez bien, la lettre 76, qui répond à une lettre délirante d'Albert Burg, qui, je crois, a été son élève, en tout cas, c'est son plus grand échec, véritablement. Il est à Spinoza ce que Anakin Skywalker est à Obi-Wan Kenobi. C'est son échec tragique, ça devait être un Jedi, il est devenu un Sith de l'Église catholique romaine, et alors Albert Burg lui dit, mais enfin, revenez à la raison, philosophe, rentrez dans le rang de l'Église catholique, apostolique et romaine, à quoi Spinoza lui dit des choses terribles. Tu commences par te désoler du fait que je me laisse séduire par le prince des esprits malins, s'il te plaît. Un peu de bonne volonté, reviens à toi. Lorsque tu avais toute ta tête, tu adorais, si je ne me trompe, un Dieu infini, en vertu duquel absolument toutes choses adviennent et se conservent. Tu sembles vouloir faire usage de la raison et tu me demandes comment je sais que ma philosophie est la meilleure de toutes celles qui ont jamais été enseignées dans le monde et qu'on enseigne encore ou qui seront jamais enseignées dans le futur ? Voilà une question que je serais bien plus en droit de te poser à toi. Car pour ma part, dit Spinoza, je ne prétends pas avoir trouvé la meilleure philosophie, je sais seulement qu'est vraie celle que je comprends. À quoi on pourrait dire, voilà un homme qui... Et d'ailleurs, c'est une lettre dont les détracteurs de Spinoza se sont servis pour dire que voilà un homme qui pêche malgré tout par dogmatisme. On a vraiment le choix, à lire cette lettre, d'être d'accord avec Spinoza ou bien d'avoir complètement tort.
Oui, c'est là où je crois qu'il est important d'être historien, c'est-à-dire d'avoir un rapport au texte qui cherche à les contextualiser. Il faut imaginer Spinoza, ami de la famille Berg, qui voit revenir un jeune punk, là où le père avait tout mis en œuvre pour faire, disons, un érudit. Et puis il voit Albert Berg revenir de Rome en haillons, pieds nus, professant un catholicisme extrémiste et demandant à Spinoza, c'est ce qu'on pense aujourd'hui de cette lettre, d'écrire donc à son fils pour le ramener à la raison. Donc on a quand même un Spinoza qui, malgré tout, c'est vrai que la lettre du texte est violente, mais il est bienveillant, c'est-à-dire que là, il a face à lui un jeune homme énervé qui l'insulte clairement et à qui il va répondre un peu, c'est vrai, par la manière forte et c'est vrai aussi d'une manière un peu dogmatique. Et pourtant...
Voilà, il faut ici s'interroger sur les raisons pour lesquelles il dit « je comprends la vraie philosophie ».
Voilà, ce qui est le plus fascinant dans cet échange, c'est que Spinoza lui dit « toutes les raisons que tu m'opposes, je peux y répondre ». Mais sois sensible à une chose. Ce que je crois juste, je suis capable d'en rendre raison. Je peux l'expliquer. Est-ce que tu peux faire ça, toi ? Pose-toi cette question pour toi-même au lieu de me la renvoyer à moi. De sorte que les deux lettres sont très intéressantes à lire l'une après l'autre parce que c'est un jeu de miroir extrêmement troublant. D'autant plus troublant que, comme vous le remarquiez tout à l'heure, il n'est pas absurde de dire que face à un extrémiste, Spinoza, à son tour, se fait extrémiste, ce qui est extrêmement perturbant. Je veux dire, on attendrait d'un philosophe qu'il prenne sur lui et qu'il réponde avec beaucoup mais la bienveillance, elle est là, mais disons beaucoup de calme. Et effectivement, on a l'impression que là, Spinoza sait que le dogmatisme auquel il s'affronte dans cette lettre-là est capable de causer des effets très graves. Il a vu son ami Adrien Coerbag mourir en prison. Il a vu des gens se mettre dans les dangers les plus graves pour leurs idées.
Il fait lui-même l'objet d'insultes, de gémonies et de détestations innombrables.
Donc il y a une défense comme ça de la philosophie qui, c'est vrai, est militante. Mais encore une fois, il faut s'imaginer ce rapport humain entre l'ancien professeur et le jeune qui part dans des directions que désapprouve sa famille, etc. Et c'est aussi dans cet ancrage humain et même, je dirais, affectif, qu'il faut comprendre un certain nombre de lettres de Spinoza.
Et puis il y a d'autres lettres, celles qui ne sont pas de Spinoza et celles qui même ne lui sont pas destinées, mais où il est question de lui. Il y a notamment la lettre de Lambert de Weltoysen, je ne sais pas si on le dit comme ça, à Ostens, l'ami de Spinoza, dans lequel Lambert de Weltoysen fait de Spinoza un portrait terrible auquel Spinoza répondra ensuite en s'adressant non pas à l'auteur du pamphlet, mais à l'intermédiaire, c'est-à-dire au destinataire. Écoutez.
De quelle naissance est-il ? Quel genre de vie mène-t-il ? Je l'ignore, et il n'est même d'aucun intérêt de le savoir. Il n'est pas sot de son naturel, et c'est sans désinvolture ni négligence qu'il a étudié et pénétré les controverses religieuses dont on débat entre chrétiens en Europe. Le propos de son livre le montre suffisamment. L'auteur de ce livre est convaincu qu'il s'appliquerait avec plus de bonheur à l'examen des opinions qui font que les hommes se divisent en factions et s'érigent en partis après avoir renoncé et échappé aux préjugés. Il a travaillé plus qu'assez à affranchir son esprit de toute superstition et, pour montrer qu'il en est exempt, il est tombé dans l'excès inverse. Afin d'éviter la faute des superstitieux, il s'est, me semble-t-il, dépouillé de toute religion. En tout cas, il ne s'élève pas au-delà de la religion des déistes, qu'on trouve partout en assez grand nombre. Voilà où en sont les mœurs déplorables de ce siècle, surtout en France. Mersenne a publié contre eux un traité que je me souviens d'avoir lu jadis. Mais je pense qu'il n'y a presque personne parmi tous les déistes qui ait plaidé cette déplorable cause dans un si mauvais esprit avec autant d'habileté et de ruse que l'auteur de cette dissertation. Au reste, si je ne me trompe en ma conjecture, cet homme ne se cantonne pas dans les limites des déistes et il ne laisse subsister parmi les hommes pas la moindre partie de culte.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un aime,
par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur le i,
fais-moi confiance. Je suis l'esclave,
sans accent grave,
des apparences. C'est ridicule,
c'est majuscule,
c'est si bien.
Maxime Revers est l'invité ce mercredi des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine sur Spinoza où nous parlons de toute l'œuvre de Spinoza, exception faite de l'éthique. C'est aujourd'hui de sa correspondance que nous parlons.
À m'écouter avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un dé,
tant de rancune. T'as pas de cœur, y'a pas d'erreur.
Là, y'en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute.
Là, y'en a pas.
Moi, je te signale.
Maxime Revers, la lettre de Lambert de Weltussen, dans laquelle il propose ce portrait de Spinoza, est intéressante parce qu'elle est symptomatique du discours qu'on peut tenir sur Spinoza, même de la part de ceux qui lui reconnaissent du génie, une forme d'intelligence, une connaissance aiguë des objets dont il parle. Et même chez ceux-là, parfois, subsiste quand même l'envie de lui reprocher, par exemple, de ne pas laisser subsister parmi les hommes la moindre partie de culte. Or, Spinoza n'est pas là pour ça. Le propos de Spinoza n'est pas de ménager la chèvre et le chou. Il y a une forme, non pas d'extrémisme chez Spinoza, mais d'attachement serein à ce que lui dictent les lois de la raison, tout simplement.
Oui, cette lettre révèle le grand échec du traité théologico-politique auprès de ceux à qui il s'adressait. Ce qui est extrêmement triste quand on lit cette lettre.
Parce qu'il visait les indécis quand il écrivait ça.
Oui, et puis aussi les cartésiens libéraux. Et il se trouve que Lambert von Weltheusen, c'est un cartésien libéral. Donc c'est typiquement le genre de personne à qui voulait s'adresser Spinoza et dont il espérait un accueil positif. Et il s'aperçoit que l'accueil est au contraire extrêmement violent, que les gens sont choqués d'avoir lu son ouvrage et que malgré l'admiration que suscite son érudition et sa maîtrise des langues, malgré tout, on estime que dans la mesure où il a cantonné les cultes, disons, aux impératifs des ignorants, c'est-à-dire qu'au fond, Spinoza finit par, disons, pour assurer une tolérance maximale, qui est son seul objectif. Donc l'objectif de Spinoza ne sera jamais de dénier au culte toute utilité, mais au contraire, pour assurer donc la permission à tous les cultes, il se trouve dans la situation de soutenir que le culte, quelle que soit sa forme, n'est pas déterminé par la raison et par la connaissance de Dieu. Or, cette thèse choque les calvinistes les plus libéraux.
Mais c'est pourtant une thèse fondamentale, parce que c'est une thèse sur laquelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut faire reposer tout simplement l'idée de laïcité. Dans le traité théologico-politique dont on parlait avant-hier avec Ariel Suami, on posait le lien, dans la préface du TTP, le lien qu'il y avait chez Spinoza entre la déconstruction des chimères de l'imagination, hein, d'un dieu transcendant, et le fait de vanter les mérites d'une république où chacun est libre d'adorer l'idole de son choix, comme si la condition de possibilité d'un lieu où chacun peut délirer comme il l'entend était de distinguer la théologie de la théorie de la connaissance.
Absolument.
Comme s'il fallait poser véritablement que la Bible n'était pas une théorie de la connaissance pour permettre ensuite à chacun d'adorer le dieu de son imagination.
Oui, mais là où Spinoza a peut-être présumé de la libéralité de son époque, c'est qu'il n'a pas pris en compte les associations d'idées qui s'attachent à ce que nous on appelle laïcité, mais qu'on appelle à l'époque athéisme. Et un athée, au XVIIe siècle, ça n'est pas seulement quelqu'un qui ne se réclame d'aucune religion, ça n'est pas nécessairement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que c'est quelque chose qui est vraiment rarissime dans la mesure où on sait utiliser le mot Dieu de tant de manières qu'il n'est même pas la peine de le nier. Puisque, encore une fois, on peut couvrir tout le champ des positions possibles sans avoir à en venir là. Mais surtout, on associe à l'athéisme des mœurs dissolues. Et Spinoza va poser un problème à son époque, au-delà du livre même du TTP, lorsqu'on s'apercevra que, bien qu'il incarne une certaine forme d'athéisme, il incarne aussi incontestablement une forme bien reconnue de vertu. Et c'est Bayle, dans son dictionnaire et ailleurs, qui va poser le problème pour des générations et des générations de l'athée vertueux incarné par Spinoza.
Alors effectivement, ça c'est un problème redoutable et on va en parler ensemble. Juste avant cela, il faut quand même entendre, c'est la lettre 43, la réponse que Spinoza propose du portrait, que la réponse que Spinoza fait au pamphlet, donc qui est rédigé par Welthuizen, réponse qu'il adresse à Jacob Oustens. Il dit ceci, parlant donc du portrait qu'on fait de lui. Il dit premièrement qu'il n'est d'aucun intérêt de savoir de quelle naissance je suis ou quel genre de vie je mène. Il est clair que s'il l'avait su, il ne se serait pas si aisément persuadé que j'enseigne l'athéisme. Les athées, en effet, ont l'habitude de rechercher plus que tout les honneurs et les richesses. Pour ma part, je les ai toujours méprisés, comme le savent tous ceux qui me connaissent. Ensuite, pour préparer le terrain où il veut en venir, il dit que je ne suis pas sot de mon naturel. La conséquence en est bien entendu qu'il a pu facilement s'apercevoir que j'avais parlé avec subtilité, adresse et mauvais esprit en faveur de la déplorable cause des déistes. Cela montre assez qu'il n'a pas compris mes raisons. En effet, qui pourrait être d'un tempérament assez subtil et assez adroit pour donner, d'une âme feinte, des raisons aussi nombreuses et aussi solides en faveur d'une cause qu'il estime aussi fausse ? Après cela, je le demande, quel est l'auteur qu'il reconnaîtra comme sincère, s'il croit que l'on peut démontrer aussi solidement les fictions que ce qui est vrai? Mais cela ne m'étonne plus. C'est un Spinoza désappointé. Un Spinoza désappointé par ceux qu'il appelle les sots cartésiens, hein, Maxime Revert.
Ah oui, c'est une grande déception pour lui de voir qu'il est mal compris. Et même de ses amis. Hein, il faut se représenter qu'une amitié de dizaines d'années avec Oldenbourg, qui est son correspondant à Londres, s'est trouvée interrompue par le traité théologico-politique, puis par l'éthique. C'est-à-dire que les cartésiens n'ont pas compris... la direction qu'indiquait Spinoza et ont immédiatement été sensibles à des dangers qui, lui, ne le concernaient pas. Et effectivement, cette espèce de dissolution des mœurs que tout le monde brandit à l'idée d'athéisme, Spinoza en est évidemment l'ennemi juré. Mais il faut voir que athée, dans leur bouche à tous, signifie encore une fois quelque chose comme arriviste. C'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un sans foi ni loi. Donc qui échapperait à toutes les règles de la morale et à toute fidélité à qui que ce soit. Et donc on ne peut l'autoriser qu'à remettre en cause la notion même d'humanité. C'est pourquoi les oppositions au traité théologico-politique, comme à l'éthique plus tard, sont souvent mal fondées, mal visées d'une certaine manière. Mais en même temps, elle témoigne comme ça d'associations ou de représentations symboliques contre lesquelles Spinoza a dû lutter toute sa vie.
Et alors, parmi ces représentations symboliques contre lesquelles il a dû lutter, il y a donc l'idée reçue d'un athéisme accolé à l'idée que ce sont les athées ont fatalement des mœurs dissolues. Et alors, si les athées ont des mœurs dissolues, penser cela, c'est aussi déduire du fait qu'on ne croit pas en Dieu le fait que rien ne nous empêche de mal nous conduire. Et qu'au fond, Dieu est là pour empêcher qu'on se conduise mal. Or, dans l'éthique, Spinoza, dans le scoli de la proposition 41 de la cinquième partie, Spinoza se moque de ceux qui se conduisent bien parce qu'ils ont peur de la punition ou parce qu'ils espèrent une récompense, en considérant que ce sont les mêmes qui, si on leur disait le lendemain qu'il n'y a ni punition ni récompense, se mettraient à mal se conduire. Au fond, tout le propos de Spinoza, et en cela certains le disent encore chrétien, tout le propos de Spinoza, c'est de penser une vertu qui serait à elle-même sa propre fin et qui existerait indépendamment ou séparément de la représentation des bénéfices qu'on peut en attendre ou des punitions qu'elle nous permet d'éviter.
Oui, il y a dans cela quelque chose d'extrêmement exigeant, où il est parfois difficile de suivre Spinoza lui-même, parce que, au fond, ce à quoi il s'attaque, plus que à la superficie des morales et des exigences religieuses, c'est à la notion de conscience morale qui a été fabriquée par saint Augustin. C'est-à-dire l'idée qu'en nous-mêmes, quelque chose nous indique la voie et quelque chose nous montre la différence entre le bien et le mal, ce que nous pouvons faire ou pas, et finalement sert de boussole. Et Spinoza, malgré tout, c'est embarrassant, nous prive de cette boussole, c'est-à-dire détruit la notion même de conscience morale pour la remplacer par celle d'expérience et de rationalité. Ça paraît comme ça philosophiquement séduisant parce qu'on se dit facilement ami de la raison et on a plaisir à s'imaginer diriger sa vie seulement en fonction de la raison. En fait, c'est très embarrassant parce que lorsque l'on se trouve en situation de dilemme et que la raison se joue dans l'ignorance, quand par exemple au moment des choix, on ne sait pas où mènent les chemins, comment peut-on décider ? Ça, ça fait partie des problèmes que Spinoza et Blyenberg, notamment, agitent l'un et l'autre. Et Blyenberg, qui est l'un de ses correspondants les plus originaux, puisque c'est à la fois quelqu'un qui est d'abord un théologien, mais qui en même temps est un petit peu débutant et qui fait preuve d'une certaine naïveté.
Et il est courtier en grains à Utrecht, ce qui n'a aucun rapport avec la chose.
Oui, mais qui est le cas de beaucoup des amis de Spinoza. Donc, quelque part, le fait que Blyenberg soit un marchand, ça ne l'isole pas tant qu'on croit, disons, du reste de son cercle.
De la sphère spéculative et des échanges qu'il peut avoir avec ses autres camarades.
Absolument. Beaucoup de ses amis sont encore des marchands à la bourse. Lui-même, Spinoza, a fréquenté la bourse au moment où il a repris l'entreprise de son père pendant quelques années. Non, le plus embarrassant, c'est que Blyenberg, à la fois, fait des erreurs de vocabulaire et qui contrarie Spinoza parce qu'il sent bien qu'il ne peut pas réfléchir avec un homme qui ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de la philosophie. Et en même temps, il en a envie, évidemment, parce que, encore une fois, nous l'avons dit, ses lettres s'adressent à un public qui n'est pas toujours un public de philosophes aguerris. Au contraire, encore une fois, ce sont ses amis, ce sont des admirateurs, ce sont toutes sortes de gens. Donc il a, Spinoza, ce désir de s'expliquer. Et en même temps, un refus, on est obligé de le dire comme ça, de prendre en compte les embarras psychologiques d'une conscience morale.
C'est la raison pour laquelle il congédie Blyenberg dans les termes les plus secs, après un échange qui, lui, est d'une richesse extraordinaire. Deleuze revient beaucoup, d'ailleurs, sur les lettres du mal. Il consacre tout un chapitre à ce qu'on a appelé les lettres du mal, ou les lettres sur le mal. Hein. C'est la correspondance Spinoza-Blyenberg qui fait 9 lettres. Deleuze revient dessus en expliquant, en réhabilitant Blyenberg, en disant que Blyenberg pose les bonnes questions
Absolument.
À Spinoza, et que c'est aussi la raison pour laquelle Spinoza le congédie. Et alors, parmi ces bonnes questions, il y a le fait que, pour Blyenberg, si on est fidèle à ce que dit Spinoza, alors les péchés, le mal, pour le dire rapidement, ne sont rien de réel. Et Blyenberg prend d'ailleurs l'exemple de l'adultère, qui devait pour lui constituer le mal absolu. Peu importe la nature de l'exemple, l'essentiel est ici de voir l'enjeu de son argumentation. Si l'on suit Spinoza à la lettre, nous n'avons aucun moyen normatif de lutter contre le mal. Et Spinoza ne peut à ce moment-là répondre que par son exemple singulier, en faisant valoir le fait que dans sa propre complexion singulière, il n'y a rien qui le pousse à mal agir. Mais il ne peut pas apporter de réponse plus vaste que celle-là. D'ailleurs, la vie ne peut pas en apporter. Quiconque adopte une position morale face à la question du bien ou du mal se retrouve dans la situation de l'anathème ou de la déploration devant le monde comme il va.
Absolument. La seule chose qui peut nous retenir de mal faire, c'est la crainte des conséquences que peuvent engendrer des actes nuisibles à autrui. En fait, si on se plonge un petit peu dans la philosophie de Spinoza telle qu'elle est développée dans l'éthique, on s'aperçoit que faire du mal à un autre être humain, dans la mesure où nous ne pouvons pas nous empêcher de le considérer comme notre semblable, et où même nous n'avons conscience de nous-mêmes que par les autres, que par même notre ressemblance aux autres. Faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est aussi abîmer une certaine image de l'homme, donc une certaine image de soi.
Mais est-ce que ça n'est pas un artifice, ça, au fond, pour se défendre de ceux qui diraient, de l'opinion qui voudrait que dans son système où les phénomènes ne sont plus moraux en eux-mêmes, il n'y a plus qu'une interprétation morale des phénomènes, il n'y a aucun moyen de lutter contre le mal. Est-ce qu'au fond, en disant qu'en faisant du mal à autrui, on se fait du mal à soi, on ne reconduit pas l'hypothèse chrétienne de la vertu ?
Peut-être, et il y a même plus grave. C'est que si l'on considère l'autre comme n'étant pas son semblable et qu'on trouve des moyens plus ou moins aberrants de le faire sortir de la co-humanité, c'est-à-dire de considérer que, bien qu'il ait deux bras, deux jambes, etc., bien qu'il ressemble en tout à un homme, ce n'en est pas un, alors il ne nous reste plus rien pour retenir celui qui veut mal agir, de faire subir à cet être-là, qu'il ne considère pas comme un humain, tout ce qui lui plaît. C'est un des points aveugles de la philosophie de Spinoza, qu'il n'a pas envisagé, je dirais, les frontières de l'humain, peut-être aussi parce que lui-même s'y tient. C'est-à-dire qu'on est quand même, avec Spinoza, dans une humanité toujours à fabriquer. Donc la question n'est pas de savoir comment exclure les autres de l'humanité, la question sera toujours, pour chacun d'entre nous, comment y entrer ?
Et une humanité à fabriquer sans disposer de l'établi divin sous la forme transcendante que les religions révélées ont inventée et qui permettent justement de penser l'homme à l'image d'un dieu qui lui-même aurait été, selon Spinoza, construit à l'image de l'homme. On va entendre, tiens, un extrait, c'est la lettre 23, un extrait de la lettre de Spinoza à Blayenberg avant de revenir sur ses difficultés épineuses, c'est le cas de le dire.
Cela sera évident si, en m'appuyant sur ces fondements, je réponds aux questions que vous me proposez. Premièrement, est-il aussi agréable à Dieu que l'on commette un meurtre et que l'on fasse l'aumône ? Deuxièmement, voler est-il aussi bon, eu égard à Dieu, qu'être juste ? Troisièmement, s'il y avait une âme dont la nature ne répugnerait pas à s'abandonner aux voluptés et à accomplir des crimes, mais avec laquelle cela conviendrait, y aurait-il en elle une raison de vertu pour la pousser à faire le bien et à renoncer au mal ? En réponse à la première, je dis que, philosophiquement parlant, j'ignore ce que vous voulez dire par les mots « être accepté par Dieu ». Est-ce que vous demandez si Dieu est un tel et aime tel autre, ou si l'un aura commis une offense envers Dieu et si l'autre l'aura gratifié d'une faveur ? Je réponds non. Mais si la question est « est-ce que ceux qui tuent des gens et ceux qui font l'aumône sont également probes et parfaits ?» Je réponds encore que non. En réponse à la seconde, je dis ensuite que si « bon eu égard à Dieu » implique que le juste offre à Dieu quelque chose de bon et le voleur quelque chose de mauvais, je réponds que ni le juste ni le voleur ne peuvent causer à Dieu ni plaisir ni déplaisir. Mais si la question est de savoir si chacune des deux œuvres, en tant qu'elle est quelque chose de réel dont Dieu est cause, est aussi parfaite que l'autre, je dis que si nous considérons seulement les œuvres et chacune comme tel mode, il se pourrait bien que l'une et l'autre soient également parfaites. Enfin, si vous demandez si le voleur et le juste sont également parfaits et heureux, je réponds non. Car par juste, j'entends quelqu'un qui désire avec constance que chacun possède ce qui est le sien. Ce désir, dans mon éthique, non encore publiée, je démontre que chez les probes, il naît nécessairement de la claire connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et de Dieu. Et puisqu'un désir de ce genre, le voleur n'en a pas, c'est nécessairement qu'il lui manque la connaissance de Dieu et de lui-même, c'est-à-dire la principale chose qui fait de nous des hommes. Cependant, vous demandez ensuite ce qui peut vous pousser à faire l'œuvre que j'appelle la vertu plutôt qu'une autre. Je dis que je ne peux pas savoir quelle voie prend Dieu parmi une infinité pour vous déterminer à cette œuvre. Il se pourrait que Dieu ait clairement imprimé en vous une idée de lui, de sorte qu'elle vous entraîne à l'oubli du monde par amour de lui, et que vous aimiez tous les autres hommes comme vous-même. Il est évident qu'une disposition d'esprit de ce genre s'oppose à toutes les autres que l'on appelle mauvaises. C'est pourquoi l'une et les autres ne peuvent pas être en un seul sujet. Au demeurant, ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les fondements de l'éthique ni même de démontrer tout ce que je dis, puisque j'en suis seulement à donner réponse à vos problèmes et à les détourner de moi.
Et à les détourner de moi. Effectivement, il se méfie de Blayenberg, qui lui, extrêmement intelligent, raisonne néanmoins en fonction de deux principes, et à cet égard, son raisonnement est boiteux. L'intellect et la parole révélée. C'est tout le problème du propos de Blayenberg et toute sa faiblesse. Le problème, c'est que la réponse de Spinoza ne permet pas au lecteur de savoir ce qu'il faut faire pour bien ou mal agir. Au fond, le problème ici, c'est qu'on est au cœur de la philosophie de Spinoza et qu'elle n'est pas du tout normative.
Absolument, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que si on lui demande comment faire, il vous dira « débrouillez-vous ». Débrouillez-vous. C'est bien embarrassant. Oui, cette vie est bien compliquée. Oui, nous ne connaissons pas toutes les causes qui nous permettraient de prévoir avec une justesse suffisante les conséquences de nos actes et donc de nous déterminer de manière parfaite. Bon, eh bien tant pis. Il va falloir faire avec ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire ce que la nature nous donne comme désir pour établir un équilibre entre ces désirs et les causes extérieures et pouvoir y faire son chemin. Donc, dans une lettre comme celle qu'on vient d'entendre, l'intérêt n'est pas d'avoir des réponses à proprement parler, c'est-à-dire Spinoza ne se fait pas guide spirituel. Ce qui est fascinant dans cette réponse, c'est que Spinoza, là où on lui pose des questions un petit peu existentielles, comme ça, urgentes, qui concernent vraiment le concret de la vie, répond très posément en disant « Bon, alors attendez. »
« Comment faire pour trouver dans les livres de quoi ne pas tromper ma femme ?»
Voilà. Eh bien, Spinoza va répondre, alors attention, il va falloir utiliser de manière différente que ce dont vous avez l'habitude, un certain vocabulaire. Par exemple, vous vous posez des questions sur l'adultère. Très bien. Vous pensez que c'est mal ? Peut-être. Pourquoi ? Qu'entendez-vous par mal ? Là, on entre dans un travail de définition qui, pour Spinoza, est le socle même, pas seulement de la philosophie en fait, mais même de la vie. C'est-à-dire que c'est en fonction des définitions que l'on se donne que l'on va pouvoir formuler des questions et y répondre. Donc ici, par exemple, sur le rapport à Dieu, on voit bien qu'il commence par présenter un Dieu, au fond, indifférent au bien et au mal. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire et, je dirais, presque inaudible pour un homme de son époque, ou en tout cas pour Blayenberg.
Insupportable, en tout cas.
Oui, c'est ça, scandaleux.
Mais ça l'est toujours. Hein. C'est éternellement insupportable, une telle phrase.
Pourquoi donc ?
Bah, parce qu'il est insupportable d'admettre que le monde ne nous parle pas, que le réel est silencieux.
Oui, sauf par une espèce de jeu de ventriloquie auquel Spinoza tâche d'initier son lecteur ici. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez raison, il y a ce silence face aux actes et aux événements du monde que nous ressentons en positif, en négatif, en nuisible et en utile. Bien que, objectivement, le cours de la nature se déroule d'une manière totalement indifférente et muette. Et pourtant, face à cette indifférence, ce que Spinoza suggère, c'est que, en nous, se trouve une certaine idée, qu'il appelle, lui, idée de Dieu, et dont il dit « c'est la principale chose qui fait de nous des hommes ». C'est assez mystérieux parce qu'on se demande justement quelle est cette idée. Et cette idée, dit Spinoza, nous l'avons et tout le monde l'a. Athée, pas athée, croyant, pas croyant, tout le monde l'a. À vrai dire, cette idée n'est pas un contenu. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire tout de suite « eh bien l'idée de Dieu, c'est ça ». L'idée de Dieu chez Spinoza, c'est un usage. C'est ce que j'appelais à l'instant la ventriloquie. C'est-à-dire qu'au fond, il ne va pas s'agir de plaquer sur les événements, ni un commandement, ni un vouloir objectif d'une entité surnaturelle, mais plutôt, disons, de faire le tri entre ce que le désir accepte et ce que le désir refuse. Et c'est là que finalement, la lettre elle-même met en œuvre ce dont elle parle, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, l'objectif de Spinoza, c'est de détourner les questions que lui pose Blayenberg, c'est-à-dire pas tout à fait d'y répondre, mais de dire « vos questions m'embarrassent, personnellement, je sais comment les résoudre, mais je ne sais pas vous dire comment vous, vous les résoudrez. »
Plus exactement, voilà de quoi témoignent les questions que vous posez.
Absolument.
Voilà ce qu'elles disent, en réalité. Donc il répond sur la question elle-même. Il est de ce point de vue, et c'est ma dernière question, généalogiste, Spinoza. Il fait la généalogie des questions plutôt qu'il n'apporte des réponses.
Absolument. Je crois que de ce point de vue-là, autant il a su mettre en contexte et dans une perspective historique la Bible et les Écritures saintes, autant dans les lettres, on voit un Spinoza effectivement généalogiste à petite échelle pour chacun. D'où viennent vos questions ? Pourquoi vous vous les posez ? Et c'est en sachant d'où elles viennent que vous y trouverez les réponses.
Il y aurait
un million, des 1 milliard, une infinité de choses à dire sur la correspondance de Spinoza, sur sa correspondance avec Oldenbourg, qu'on a juste évoqué, Simon de Vries aussi, Louis Meyer, les lettres à Albert Burg qu'on a un peu évoquées, et la longue correspondance avec Blayenberg, la lettre à Bouvmester dans laquelle Spinoza réclame la recette de la confiture de rose rouge, ce qui avait valu d'ailleurs à Patrick Rudel dans Spinoza ou le masque de la sagesse d'inventer la réponse que Bouvmester avait fait à Spinoza, et c'était un moment de bravoure de la littérature philosophique, il faut le signaler ici. On n'a pas le temps d'en parler, mais gageons que cette émission aura peut-être donné envie à nos auditeurs de nous plonger dans la correspondance de Spinoza, dont je rappelle, Maxime Rovert, que vous assurez sa présentation et sa traduction dans une nouvelle édition en Garnier Flammarion, et c'est vraiment un volume indispensable à la découverte de Spinoza. Un grand merci.
Merci à vous.
It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong face. It's not her face, but it's such a charming face that it's all right with me. It's the wrong song in the wrong style.
10h50 sur France Culture. Tout de suite, le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Redt. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Moralisme, médiocrité et tenant du demi-savoir, la République des bons sentiments, c'est le sujet du jour. Bonjour Michel Maffezoli.
Bonjour.
La République des bons sentiments et autres écrits de combat, c'est le titre de votre livre sorti il y a peu de temps aux éditions Des Clés de Brouwer, qui est sorti conjointement avec un autre livre qui lui porte sur les formes élémentaires de la postmodernité, appelé Le Temps revient, ce qui est d'ailleurs une autre façon de rentrer dans le sujet du jour, puisque finalement dénoncer les bons sentiments, finalement comme vous le faites, c'est également prendre position contre l'incapacité à penser ce que nous nommons la postmodernité, Michel Maffezoli.
Oui, ce mot postmodernité d'ailleurs est un mot un peu tabou en France. Je dirais la France a inventé en son temps, 18e, 19e siècle, les grandes valeurs modernes, et du coup on a une espèce de frousse faramineuse à penser ce qui est à l'état naissant. Voilà ce que j'appelle le temps revient, les formes élémentaires de la postmodernité, qui est un clin d'œil à Durkheim, les formes élémentaires de la vie religieuse. Et cela va de pair en effet avec cette réédition, La République des bons sentiments. Le sous-titre, c'est « Autre écrit de combat », c'est-à-dire, dans le fond, je trouve très ennuyeux ces Niagara d'eau tiède de bons sentiments qui, actuellement, tiennent lieu très souvent de pensée. Hein, et que la position, moi, qui est la mienne, depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est de dire « c'est moins important de penser ce qui devrait être », c'est ça la morale, hein, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait que cela soit, etc., que d'écrire, pour le meilleur et pour le pire, ce qui est. Voilà.
Et pourtant, vous ne disqualifiez pas complètement l'idée de morale. Il me semble que vous affirmez haut et fort l'importance de certaines valeurs et de grands idéaux qui permettent de guider la vie. Et ce que vous dénoncez, il me semble, c'est plutôt les formes que prennent ces valeurs-là quand elles sont dénaturées, ce qui tombe dans ce que vous nommez le moralisme.
Oui, certes, le moralisme est justement une espèce d'exagération de cette belle idée qu'est la morale. Je dois citer même, mais le terme est maintenant convenu, mais enfin je le répète également, c'est ce terme un peu ironique de Nietzsche, et la moraline, c'est-à-dire comment à un moment donné un corps vieillissant a sécrété cette moraline. Cela dit, si vous me permettez, puisque nous sommes là pour discuter, il me semble justement que la postmodernité, c'est en ce sens que le gène aussi, est moins morale qu'éthique. Et en France, on a cette mauvaise habitude de confondre des termes. Et regardez comment dans diverses conversations, on dit morale, virgule, éthique, virgule, déontologie, enfin, comme si c'était équivalent. Alors que, disons-le très simplement, la morale s'élabore au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire quelque chose qui est universel, applicable en tout lieu et en tout temps. C'est l'universalisme. C'est ce sur quoi nous vivons actuellement en termes de devoir-être. L'éthique, en son sens simple, ça veut dire en grec « ethos ». C'est le site, c'est le lieu. Même certains pensent que c'est un ciment. Et dans le fond, il peut y avoir, je m'emploie à le montrer, un immoralisme éthique. Par exemple, pour le dire simplement, telle bande de loubards en banlieue n'a pas de morale par rapport à la grande morale établie. Elle a une éthique, dans le sens où ça fait lien. Elle partage un site. Et donc, ça peut être un immoralisme éthique. Voyez, donc, je crois que autant la morale, dans son universalisme, a été quelque chose qui a prévalu dans les 2-3 siècles qui viennent de s'écouler, autant nous allons être confrontés à des éthiques plurielles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer.
Pour le dire autrement, si on définit la morale comme étant ce qui a trait au bien et au mal, et l'éthique au bon et au mauvais, puisque finalement, il y a de ça, hein, puisque vous parlez de l'universel, c'est bien le bien et le mal, et le particulier, le local, c'est plutôt le bon et le mauvais. Ce que vous appelez le moralisme, c'est justement quand on fait de quelque chose qui est uniquement bon ou mauvais à échelle subjective, quand on en fait une norme et qu'on décrète que ce qui est bon pour moi est le bien en général.
Le bien en général, c'est-à-dire que ce qui a été édicté comme étant le bien en un petit canton du monde, en un moment donné, l'Europe au XVIIIe siècle, a été extrapolée aux quatre coins du monde. Hein, et comment d'ailleurs, au bout des baïonnettes des soldats, le colonialisme, dans les cales des marchands, la marchandisation du monde, et au bout de la Bible des missionnaires. Donc on voit bien comment, jusqu'à la fin du XIXe siècle, je répète, ce qui a été concocté à un endroit donné, on va l'extrapoler. Il se trouve que nous allons être de plus en plus confrontés à ce que j'appelle ces éthiques particulières. Pour ma part, j'ai développé en son temps le temps des tribus. Et je crois qu'il y a retour de ce tribalisme, je répète, pour le meilleur et pour le pire. Mais on ne peut plus fonctionner sur l'universalisme d'une morale que je vais plaquer ou que je vais imposer à l'autre d'une manière extérieure. Voilà, en quel sens, d'ailleurs, même une intuition de Pascal, vérité en deçà, fausseté au-delà des Pyrénées. Cette intuition montre bien, à bien des égards, que la postmodernité, justement, moi, pour ma part, j'essaie de la décrire, ne peut plus fonctionner sur une conception moraliste du monde.
Alors, est-ce que c'est en ce sens qu'il faut comprendre votre appel à considérer que la pensée ne vient pas de la pensée elle-même, mais de la vie en tant que telle?
Ça, c'est une autre chose, en effet, qui me tient à cœur, c'est-à-dire que, dans le fond, nous restons sur cette vieille idée un peu idéaliste, héritée du 18-19e siècle, encore une fois, qui fait que y a eu cette prévalence, cette importance, excusez le terme, du cognitif. Cogito ergo sum, je pense donc je suis, et Descartes a posé là les bases, en quelque sorte, de ce qui va être cette espèce de création du monde à partir du jeu. Or, il se trouve que moi, je suis de ceux, je dirais, influencés en sociologie par Simmel, Weber, avant bien sûr par Nietzsche, disant « la vie est importante ». Et là encore, c'est une des difficultés que nous avons en France. Il y a très peu de philosophes, peut-être Bergson, certainement Merleau-Ponty, mais dans le fond, il y a très peu de philosophes qui ont mis l'accent, ou de penseurs d'une manière plus large, qui ont mis l'accent justement sur d'abord la vie, primum vivere.
Mais alors, qu'est-ce que vous entendez par la vie, ici précisément? Est-ce que c'est ce à quoi vous renvoyez lorsque vous écrivez « Il faut savoir prendre ses distances vis-à-vis de l'institué et coller à l'imaginaire de la rue, être en phase avec les préoccupations culturelles populaires ». Est-ce que c'est ça la vie, c'est cette espèce d'ébullition?
La vie, c'est difficile bien sûr à définir en quelques mots, mais en effet, ce que vous venez de dire, moi je suis attentif et je le dis souvent à mes étudiants, les livres et les bistrots, c'est-à-dire qu'on apprend énormément en traînant ses guêtres, en traînant dans la rue, à coller à cet imaginaire que on va qualifier d'une manière un peu péjorative de populiste. Or, la vie, c'est aussi de l'énergie, c'est l'élan vital, puisque j'ai cité Bergson il y a un instant, c'est-à-dire quelque chose qui ne sent pas très bon toujours, et en même temps qui constitue ce vouloir vivre têtu, qui fait que la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. Et moi, c'est cette sagesse populaire que j'essaie en quelque sorte de formaliser, de structurer, à essayer de donner des mots qui tentent tant bien que mal de cerner, sans vouloir en clore, encore une fois, cette énergie. Il y a du vitalisme, il y a de la vitalité. On voit bien comment, de diverses manières, il y a de l'imposition économique, morale, symbolique, divers ordres. Et pourtant, sa vie, je dirais à la manière galiléenne, et pourtant sa vie. Voilà, moi j'essaie de décrire cette pulsion un peu animale, il faut bien le dire,
donc,
qui nous constitue.
L'attention à cette pulsion animale et cette sagesse populaire serait donc l'antidote à la postmodernité, Michel Maffesoli?
Disons que je pense que autant la modernité a été une négation de cette énergie, de cette pulsion, de l'instinct, de l'animalité, autant... ce qui me paraît être en jeu dans ce que j'appelle postmodernité, faute de mieux, c'est pas un concept bien défini, ce serait apprécier dans le vrai sens du terme, donner son prix justement à cette énergie-là et que, à bien des égards, qu'on le veuille ou non, il faut d'abord la constater et puis tant bien que mal essayer de la décrire et de l'analyser au mieux. Une belle idée aristotélicienne, kalos apoiresai, décrire bellement ce qui est.
C'est exactement ce que vous faites, Michel Maffezoli, en tout cas dans ces deux ouvrages, dont je renvoie les auditeurs à la lecture de La République des bons sentiments et autres écrits de combat, mais également Le temps revient, formes élémentaires de la postmodernité. On trouve ces deux ouvrages chez Desclés de Brouwer. Merci beaucoup.
Merci Adèle, merci à tous. C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui. On se retrouve sur Internet pour télécharger les émissions de la semaine, écouter en ligne les émissions du mois et accroître votre bibliothèque des livres que nous vous indiquons dans la bibliographie qui orne notre site, une bibliographie comme toujours tout à fait complète autant que possible. On se retrouve demain pour parler cette fois-ci du traité politique de Spinoza, un texte magnifique, désenchanté, inachevé. Inachevé d'ailleurs sur la question de la démocratie, puisque c'est en écrivant le chapitre sur la démocratie que Spinoza est mort en 1677.